Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Céline accompagne les entreprises dans leur communication et les pousse à questionner leur modèle et à le repenser face aux enjeux écologiques et sociétaux. À travers son parcours, qui l'a mené par hasard au métier des relations presse, à repasser sur les bancs de l'école après 10 ans en agence, à faire un bilan de compétences, puis à utiliser son expertise en communication au service de ses valeurs, elle nous raconte comment on peut s'engager et faire bouger les choses par la communication. On parle de renoncement, de greenwashing, de changement et des voies pour s'engager et avoir de l'impact. Bonne écoute. Bonjour Céline.
Bonjour.
Céline, pour commencer cet échange, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Oui, alors je suis Céline Puff-Hardijvili et au-delà d'avoir un nom imprononçable, je suis maman de deux ados, j'aime la forêt, la montagne. Je suis directrice d'une agence de relations presse et de relations publiques qui s'appelle Look Sharp et depuis aussi longtemps que je me souvienne, je m'intéresse aux sujets liés à l'environnement. Alors je ne suis pas scientifique, mais j'essaie de comprendre, je m'intéresse, je lis, je questionne, j'essaie de mettre en pratique et d'agir en conséquence dans ma vie et dans mon boulot. Et voilà, la cohérence, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est mon constat. Donc je vais peut-être te dire un petit peu plus sur ce que c'est que Look Sharp.
Oui, tout à fait.
Donc c'est une agence de conseil en communication sur les sujets de transition, donc les transitions environnementales, énergétiques, vers une plus grande intégration des sujets de responsabilité, mais aussi de transition RH, transition technologique. Nos clients ont tous un de ces sujets au cœur de l'activité. Donc, soit ils sont en train de vivre leur propre transition, soit ils facilitent la transition d'autres acteurs. Donc nous, on est spécialisés dans les RP, ça veut dire qu'on aide nos clients à bâtir et à renforcer leurs relations avec les médias et aussi leurs parties prenantes externes en général, donc les cercles d'influence avec lesquels ils devraient être en contact. Donc on essaye de faire grandir ces cercles-là pour nos clients. L'agence a 7 ans, voilà, l'âge de raison, et on est 10.
Ok, super, merci Céline. Comment est-ce que tu as rejoint le projet ? Pourquoi est-ce que ça t'a intéressé, Look Sharp ? Tu faisais ça avant ? Comment est-ce que tu en es venue au RP ?
Oui, alors Look Sharp précisément, j'ai rejoint Béatrice Lévesque, qui est ma partenaire aujourd'hui, on est deux partenaires, quelques mois après qu'elle fonde Look Sharp. On se connaissait de nos vies professionnelles d'avant. On s'est retrouvés autour de ce projet. Elle m'a demandé de la rejoindre. En fait, ce qu'on voulait, c'était faire des RP comme on l'entendait, en prenant le temps de faire de la qualité, du sur-mesure pour des clients qu'on voulait vraiment soutenir parce qu'on y croit, parce qu'on croit en eux, en leur projet. Alors, soit parce que c'est des entrepreneurs et qu'ils ont la foi et un projet susceptible d'avoir un impact, soit parce que c'est des gens de conviction dans leur entreprise et que leur entreprise était en transition, comme je disais. Donc, ce qu'on voulait aussi, c'était faire ce métier correctement. Donc, correctement, c'est pour de la com, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment de métrique. Hein. On peut dire, si la com, si tu fais bien de la com, tu fais vendre plus de produits pour lesquels tu communiques. Bon, ça, c'est une métrique. Mais ce n'était pas ça la métrique vraiment qui nous intéressait. Évidemment, on cherche à aider nos clients à atteindre leurs objectifs business. Hein, ça, c'est évident. Mais surtout, on essayait ce qu'on veut, c'est rester factuel quand on fait du conseil et apporter une vraie valeur à notre métier. Voilà, donc on voulait faire sur ces sujets de développement durable et de RSE, en tant que communicant, moi j'ai très vite remarqué que c'est littéralement dangereux de parler de ce qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, tu te fais le relais de clients et de leurs messages sans comprendre la big picture, comme on dit, sans comprendre les enjeux derrière. Et en fait, tu peux soit raconter des bêtises, bon, ça c'est une chose, soit finalement, et ça me travaillait la nuit, pousser des modèles de société, alors de société avec un petit s, des modèles d'entreprise, mais finalement des modèles de société avec un grand s, la façon dont on vit tous ensemble. Tu peux pousser des modèles qui ne sont pas bons, en fait. Mais comment tu sais? Comment tu sais ce qui va finalement être un bien commun ou devenir un boulet commun? Donc ça, pour moi, il fallait vraiment qu'on réfléchisse au sens vrai du métier. Donc c'est une façon de faire de la communication responsable, c'est de t'interroger sur les sujets que tu pousses, tout simplement. Donc nous, on s'est dit, au-delà de ne pas dire de bêtises pour nos clients, on va essayer de choisir des clients qui ont un modèle dans lequel on croit, où on se dit, ah ben ça, dans la société, ça, c'est utile. Et là, tu te dis que tu fais un effet, tu crées un effet papillon, tu contribues à un effet papillon, c'est-à-dire que tu accélères un truc, mais qui va dans le bon sens. Donc, tu l'accélères parce que le fait de porter les messages, de contribuer au succès de ton client, eh ben, ça a un effet. Donc, tant qu'à faire, autant que ça ait un effet dans le bon sens. Donc, c'est ça qu'on voulait faire avec Looksharp. Donc, ça veut dire choisir des clients. Alors, les clients, ils nous choisissent aussi, évidemment. Ils ont le choix dans leurs agences, mais nous aussi, on les choisit. Donc, c'est ça qu'on voulait faire. On voulait aussi faire de la bonne communication, c'est-à-dire réfléchir à ce qu'on dit, être dans la critique de nous-mêmes, en fait, quand on communique, on tourne 7 fois le message dans notre bouche, ou sous notre crayon, ou dans notre mail, voilà. On essaye de prendre de la hauteur, de faire le meilleur boulot qu'on peut faire. Et ça, si on se l'impose à soi, eh ben on le propose aux équipes, et finalement, le boulot devient 1000 fois plus intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça a changé ma manière de travailler au quotidien, et je pense que les gens qui nous ont rejoints et qui venaient d'autres agences l'ont senti aussi.
Et Céline, comment est-ce que tu fais face à un client qui communique, par exemple, qui vient te voir avec une proposition, et tu te rends compte que finalement, leur message, leur communication ou le produit qu'ils lancent, ce qu'ils font, c'est soit complètement du greenwashing, soit complètement à côté de la plaque. Juste, tu leur dis non merci, je vous propose une autre agence, ou finalement, tu essaies parfois de les faire réaliser qui sont peut-être un petit peu à côté de la plaque.
Alors, déjà, on essaye de pas trop être dans le jugement. Alors, il y a des... C'est marrant, c'est comme dans la vie, en fait. T'attires des gens qui te ressemblent un peu. Parce que les clients qui viennent nous voir aujourd'hui, soit on a été les chercher. Il y a des gens qu'on va chercher. Je leur dis, j'ai vraiment envie de bosser pour vous. Parfois, ça marche, c'est sur un malentendu. Et parfois, on parle de nous, on nous conseille. Et dans ce cas, les gens qui viennent, en général, ils ont déjà un projet qui ressemble un peu à ce qu'on aime faire. Après, parfois, oui, il y a des clients qui ont des trucs qu'on y croit moins. Alors, si on n'y croit pas du tout au moment de la rencontre, on n'y va pas. Alors ça, c'est sûr. Nous, on a une espèce de petit powwow au bureau où on parle des prospects. Hein. À ce stade, ce n'est pas encore un client, par exemple, c'est un prospect. Et on se dit, voilà ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si tout le monde dit, bof, moi, j'y crois pas, je ne pense pas que ça soit bien, je pense que c'est une fausse bonne idée, parce qu'il y a des fausses bonnes idées, il y en a en développement durable aussi. Donc, on essaye d'en parler, de savoir pourquoi, de savoir si on aurait potentiellement une influence. Si personne n'y croit, on n'y va pas, parce qu'on ne fera déjà pas du bon boulot, et puis parce qu'on n'a pas envie de pousser un truc auquel on ne croit pas. Ensuite, quand c'est un client qui a parfois un truc, on est en train de bosser avec ce client, imagine, et un jour, il a une news ou une annonce dans laquelle on croit un peu moins, on essaye de l'infléchir, on essaye de discuter avec lui. Et en général, comme on a des relations vraiment plus de partenariat que de client-fournisseur, si tu veux, client-prestataire, on réussit à discuter avec le client, à montrer pourquoi on voit un danger ou un une aberration dans ce qu'ils sont en train de faire. Et parfois, on réussit à l'infléchir et c'est génial. Et parfois pas, mais enfin, toutes les boîtes sont en transition. Il n'y a pas de bonne boîte aujourd'hui. C'est rare d'avoir une entreprise 100% vertueuse. Évidemment, sur le fond économique, social, environnemental, etc., tu as toujours des côtés un peu plus sombres à la facette. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Donc, ça fait une discussion hyper intéressante. Et en général, les deux parties trouvent quelque chose qui a plus de valeur à communiquer, si tu veux. Donc, c'est ça la relation qu'on a avec les clients.
D'accord. Et je trouve que c'est très intéressant quand tu dis que vous êtes plus dans une relation de partenariat avec tes clients plutôt que dans une relation, on va dire, client-prestataire. Parce que pour avoir quelques expériences aussi en communication pendant les 10 dernières années et aussi en RP, c'est vrai que très souvent, la relation que tu peux avoir avec un client, elle est plus de l'ordre du tu es un exécutant et parfois ce sont des relations, je veux dire, qui sont pas très saines. Vous, avec les clients que vous avez réussi à mettre en place cet équilibre, et tu penses que ça vient du fait que ce sont des clients qui se projettent, on va dire, sur un autre modèle de société, qui sont plus engagés?
Ouais,
ça fait partie du package.
Peut-être qu'il y a ça, mais on n'a pas que des clients qui viennent nous voir parce qu'ils sont hyper engagés environnementalement parlant. On n'est pas une agence. On ne se définit pas comme une agence spéciale RSE, on se définit comme une agence de la transition. Mais à mon avis, la raison pour laquelle on réussit à avoir ce genre de discussion, c'est que tout au début de l'éventuelle relation, c'est-à-dire au moment où on se parle, avant de contractualiser quoi que ce soit, avant qu'on soit choisi, on leur dit que nous, on bosse comme ça. On leur dit que ce n'est pas parce qu'ils nous enverront une idée de communiqué de presse qu'on va la diffuser et ni l'écrire. Parce qu'en fait, nous, on n'aime pas recevoir des communiqués de presse tout faits, on les co-écrit ou on les écrit tout seul. Enfin, c'est nous qui allons les défendre auprès des médias et c'est nous qui allons pitcher nos clients auprès d'influenceurs, de conférenciers, de salons, etc. Donc, c'est nous qui devons travailler le message, si tu veux. Mais on leur dit dès le début, enfin vraiment, on leur dit, mais si vous ne voulez pas avoir ce genre de discussion avec nous, ne nous choisissez pas. Parce que ça va être hyper frustrant pour vous. Vous allez vous dire, ouais, ils ne font pas ce que je leur dis. Et nous, ça va être hyper frustrant pour nous. Et au final, on aura le dernier mot. Parce qu'on n'envoie pas... en clair, le client, on l'aura pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On a eu quelques clients pendant 6 ans. Là. C'est génial. Mais le client, il va partir un jour. Mais la relation journaliste, en théorie, on va l'avoir toujours dans une agence. Donc, moi, je n'ai pas envie de passer pour une nouille auprès de journalistes ou que le journaliste voit Luke Sharp en bas du communiqué de presse et se dise « Mais c'est quoi cette merde ?» Et au final, c'est ça qui prime. Donc, on a cette discussion avec les clients, enfin les prospects au début. Et s'ils se disent « Oula, ça a l'air trop chiant, j'ai jamais bossé avec une agence comme ça, j'ai pas du tout envie d'avoir ce genre de confrontation », eh bien, c'est simple, on ne bossera pas ensemble. Parce qu'ils ne nous choisiront pas. Si tu veux, on propose quand même une autre façon de travailler, tu vois. On n'est pas en descendant. On va remettre en question. On a eu des clients, on les pousse un peu dans leur retranchement. Pourquoi tu veux dire ça? C'est quoi le message derrière? Comment tu peux défendre ça? Explique-moi, techniquement, qu'est-ce qui prime? Et on a des discussions vachement plus intéressantes. Mais pour ça, il faut qu'on ait une relation directe aussi avec le porte-parole et c'est très précieux d'avoir ça et ça change tout.
Alors qu'est-ce que c'est le porte-parole?
C'est la personne qui, si tu mets une entreprise devant la presse, tu as bien quelqu'un qui va prendre la parole, qui va s'exprimer au nom de l'entreprise. Alors c'est soit le fondateur de l'entreprise, soit une personne qui a une expérience, une compétence particulière dans l'entreprise, et en fonction du journaliste qu'on va avoir en face, c'est cette personne qui sera la plus pertinente pour s'exprimer, ou alors c'est le dirigeant, le DG France, le responsable développement durable, le directeur RH d'une plus grosse boîte. Donc c'est ça le porte-parole, c'est la personne qui va, en cas d'interview, ou quand il y a une conférence ou un salon, enfin, qui va être sur la table ronde, tu vois, c'est la personne qui prend la parole au nom de la boîte, que ce soit sa boîte ou la boîte qu'elle représente. Cette personne-là, on doit avoir un super lien de confiance avec elle, parce que c'est comme On doit y croire. Nous, on doit croire dans cette personne. Si on n'y croit pas, on ne réussira pas à faire du bon boulot. On va être frustrés de notre côté. Eux, ils vont être frustrés parce qu'ils vont se dire qu'on ne va pas dans la même direction. On a besoin d'aller dans la même direction, tu vois. Voilà.
Ouais, je comprends.
Et c'est... on n'est pas comme un avocat qui va défendre un client, quelle que soit la culpabilité de son client. Moi, on n'a pas cette déontologie-là. Ce n'est pas la même. Nous, soit tu as une agence et c'est un prestat et il fait ce que tu lui demandes de dire, soit tu as une agence qui fait du conseil et qui va dire bah là j'y crois pas, donc j'y vais pas, parce qu'au final c'est ma réputation aussi. Et en fait je pense qu'en plus en faisant ça, en étant hyper exigeant envers ton client, tu l'es envers toi et tu fais du meilleur boulot. Moi j'ai jamais écrit des tribunes aussi pertinentes que depuis qu'on a des vraies discussions avec nos clients. Donc c'était pas du tout un mauvais choix que d'aller dans cette direction là
Et justement, tu parlais tout à l'heure de ta relation avec les journalistes et justement d'éviter que les journalistes disent « Oh là là, mais c'est quoi cette merde qui vient de chez Look Sharp si tu envoies un mauvais communiqué de presse. J'ai fait aussi une interview récemment par rapport au rôle de la presse dans la transition et comment se situent justement les journalistes. On entend beaucoup de mauvaises choses, entre guillemets, sur les journalistes qui prennent les communiqués de presse copier-coller quand c'est envoyé par certaines institutions ou par certains groupes, etc., qui les relisent assez peu et avant de les diffuser. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle est, toi, ta vision? Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui met un petit peu en danger ce modèle, justement, d'envoyer uniquement de la qualité? Sachant qu'une autre agence pourrait envoyer ce communiqué que toi, tu n'as pas envie d'envoyer et qui serait finalement diffusé.
Oui, mais alors là, tu mets le doigt sur un truc qui est super important et qui est le fondement de ton podcast, il me semble, qui est le fait de se remettre en question et d'aller se former. Parce qu'en fait, j'adore travailler avec les journalistes, je respecte énormément... tout le travail qui est fait du côté des journalistes, mais je sais aussi que ça fait quand même, ça fait plus de 20 ans que je bosse, monsieur, donc j'ai vu la presse aussi pas mal changer, être en difficulté, les modèles d'affaires des médias ont été énormément chahutés. Moi j'ai commencé à bosser, c'était avant l'ère d'Internet, hein, t'imagines, tu parles à, pouh là là, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, donc en fait, les médias se sont cherchés et les rédactions sont organisées de manière encore assez verticale. C'est-à-dire que dans les grands médias, tu as des journalistes qui sont spécialisés de leur sujet. Alors, ils tournent aujourd'hui, parfois ils tournent, ils peuvent passer d'un sujet d'une verticale industrie à une verticale plus agroalimentaire, etc., en se formant en interne. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais en général, ils bossent en vertical. Donc, quand tu vas leur dire, quand tu vas essayer de pousser un sujet qui fait le lien entre l'économie et l'environnement, ah, ça va un peu tiquer, parce que bah, ça, c'est mon collègue économie. Ah non, ça, c'est mon collègue environnement. Donc, tu as un petit peu cette partition des fonctions, des spécialisations des journalistes qui empêche un peu un message intégré. Or, dans nos sujets de développement durable, de RSE, d'environnement, c'est toujours des sujets imbriqués, économie, énergie, environnement, pollution, emploi, société, tout ça, c'est imbriqué. Donc, c'est vachement dur de les aborder quand tu es en vertical. Donc, ça, c'est côté des journalistes. Ensuite, côté des agences, ben oui, souvent elles balancent un communiqué de presse. Si c'est une institution un peu reconnue, ça va être repris tel quel. Mais donc, à nouveau, est-ce que c'est l'agence qui a pas fait son boulot? Est-ce que c'est l'agence qui a trop bien fait son boulot? Parce que je te rappelle qu'il y a quand même des agences qui trouvent que c'est super de flatter leurs clients jusqu'au bout et de pas trop se poser de questions. C'est des conceptions différentes. Hein. Moi, j'étais dans des agences, on se posait pas tellement de questions sur le bien fondé d'un message. Voilà, c'est ça. C'est pas automatique. Et dans ce cas, tu balances ton communiqué de presse, tu arroses, si tu veux, et tu attends que ça retombe, tu passes quelques coups de fil à des journalistes amis et tu pries très fort. Mais si tu veux, et oui, il y aura toujours quelqu'un pour faire le boulot que toi, tu voudras pas faire. Ça, c'est vrai. Mais je me dis que s'il y a de plus en plus de gens qui veulent faire le boulot bien, bah, il y aura de moins en moins de gens pour faire le boulot pas bien. Et comment tu veux faire le boulot bien si tu n'as pas compris les enjeux ? En particulier les enjeux, enfin, je ne sais pas si tu as fait une fresque du climat, mais c'est quand même vachement compliqué. Tout est imbriqué, tout se lit, tout se tient. C'est des sujets complexes et il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas tellement envie de s'y plonger parce que d'abord c'est flippant, puis ensuite c'est technique. Puis franchement, moi ça fait quelques années que je lis plus que ça, mais ça devient un peu, enfin tu es dans ton monde quand même un peu, hein. Après tu parles à des gens et ils se disent, oh là là, elle est super chiante en fait. Donc bon.
Oui, je comprends.
Bah, ah ouais, mais donc quelque part, tu n'as pas envie de t'isoler non plus. Donc, et puis quand tu es dans une agence entre guillemets mainstream et que tu es le seul à te poser des questions, moi je l'ai vécu, hein, c'est, bah tu t'isoles. Bah, tu t'isoles vachement en fait. Et puis, c'est. Donc voilà, tout ça fait que. Oui, tu as encore pas mal de trucs pas glorieux dans la presse. Après, il y a eu aussi une vague de greenwashing enfin, c'était pas voulu. C'est-à-dire, tu as eu plein de fausses bonnes idées. Remets-toi, il y a 5, 6, 7 ans, avant la COP, tu avais des supers idées de trucs qui allaient révolutionner. Enfin, moi, j'étais beaucoup dans les sujets techno, donc... Le green IT, l'IT for green, la technologie, ça allait tout révolutionner. Et là, il y a eu pas mal de greenwashing parce que personne ne parlait de l'effet rebond. Personne ne se disait, ah oui, ça économise sur tel front, mais regarde ce que ça fait à côté. Personne ne voyait cet aspect-là. Donc, on a quand même fait pas mal, en tant que client, en tant qu'agence, en tant que journaliste, on a quand même fait couler pas mal d'encre pour dire des conneries et ce que j'appellerais des fausses bonnes idées, genre l'arbre à vent ou des trucs comme ça, ou la route solaire. Mais en fait, tout ça, ça a aussi servi de leçon, entre guillemets. C'est-à-dire que ça a fait des belles études de cas où on s'est dit, ah ouais, mais ça, c'est pas tenable. Et si c'est pas tenable, on doit réviser notre copie. Et donc finalement, ça a servi au bien commun. Parce que les journalistes ont été un petit peu plus méfiants, parce que les agences se sont dit « Attends, on va peut-être faire attention, parce qu'au final, c'est notre réputation », parce que les clients ont revu leur copie. Et tout le monde y a gagné en maturité. Donc pour moi, on est au début d'une sorte d'histoire où on doit tous s'améliorer. Et donc, tous s'améliorer, ça veut dire se former. Alors, tout le monde ne peut pas retourner à l'école, mais tout le monde peut avoir la curiosité de se former quand on est sur ces sujets et quand on n'est pas sur ces sujets, parce que je reviens juste brièvement aux journalistes, tu as quand même plein de journalistes qui disent « Attends, moi je ne suis pas sur les sujets développement durable, je suis sur les sujets industrie, je suis sur les sujets économie, je suis sur les sujets politiques, je ne suis pas sur les sujets développement durable. » Ben, un jour, peut-être qu'avec un peu d'honnêteté intellectuelle, ils se disent « En fait, si, il y a un lien fatalement, quand on parle emploi, quand on parle reprise, quand on parle rebond, quand on parle industrialisation, délocalisation, relocalisation, bah, y a un lien, je le vois bien. Donc à partir du moment où tu réalises quelque chose au fond de toi, si tu as une honnêteté intellectuelle, tu vas peut-être chercher un peu. Et ben ça, c'est déjà la bonne graine, tu vois.
D'accord, oui, non, complètement. Et effectivement, tu touches du doigt un des points, je trouve, qui est essentiel, c'est la pensée en silo.
Oui.
Et le fait que, bah, que ce soit l'écologie, peu importe le nom qu'on donne, les problèmes environnementaux, etc., c'est un problème qui est systémique et qui touche absolument à tout.
Complètement. Et quand on parle aujourd'hui de One Health, c'est ça aussi, c'est considérer que finalement la santé, c'est un sujet global. Globalement, tu ne peux pas l'extraire de toute chose égale par ailleurs. Ben non, tout est lié. Donc c'est pareil avec, c'est des sujets éminemment intéressants parce que complexes et imbriqués.
Et j'en reviens un petit peu à ton parcours et à ce que tu disais sur le moment où toi tu travaillais dans des agences mainstream et que tu as pu te sentir finalement très seul, très, très isolé par rapport à ce que toi tu pensais, ce que tu avais envie de faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup un peu sur ton parcours avant LookSharp et ce qui t'a amené à rejoindre le projet LookSharp?
Ouais, bien sûr. Bon, alors moi je te dis, je suis tombée dans les RP mais complètement par hasard. Je faisais mes études, je savais même pas ce que c'était, je crois que j'en avais jamais entendu parler, et je peux te dire qu'il y a plein de gens en école de com qui savent pas ce que c'est que les RP. Ils pensent pub, ils pensent message, image, slogan, mais ils ne pensent pas RP. Donc, au début, moi, j'ai commencé dans ce métier, je peux te dire, j'avais ma première feuille de paye, je ne savais même pas ce que je faisais là. Donc, c'est génial parce que c'est un hasard total. C'est la confiance de gens qui se sont dit, bon, bah, on a besoin de quelqu'un, elle fera bien l'affaire. C'est une chance de dingue. Donc, ça m'est arrivé dans les années 90. Donc, en fait, après mes... Au début, je te fais un flashback monumental. Quand j'ai passé mon bac, moi, cette année-là, je voulais être architecte. Sans rire, je voulais construire de belles usines. Je trouvais que les usines, c'était moche, c'était sale.
D'accord.
Et en fait, je me disais, je veux être architecte, je veux du beau. Et aujourd'hui encore, quand je vois des constructions, je ne peux pas m'empêcher de me dire, ah, là, il y a... Enfin, j'aime le détail, j'aime l'esprit, j'aime la ligne. Voilà. Donc, mais je ne suis pas... Je suis pas ni artiste ni architecte, donc. Mais j'ai quand même fait le concours du Quai Malaquais que j'ai eu haut la main. Et puis pendant l'été après le bac, j'ai fait un stage dans un cabinet d'architecture à Paris. Et là, j'ai flippé, mais grave. J'ai vu un peu de misogynie. J'ai vu des choses qui m'ont pas plu. J'étais jeune. J'ai flippé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je ne me suis pas accrochée. Je n'ai pas eu le courage. Je ne saurais jamais si j'ai eu tort ou raison. Tu vois, on parlait de tu ne peux pas deviner l'avenir. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Mais toujours est-il que pendant l'été, il a fallu trouver autre chose parce qu'à la rentrée, c'était hors de question que j'aille faire archi. Donc, truc de dingue parce que c'était avant Internet.
Ah ouais, OK.
Gros flip de panique, vraiment panique. Donc, papa, maman qui m'ont foutu dans une école de commerce. Voilà. Donc, une école de commerce, ni bien ni mal, hein, c'était pas une des grandes, parce que j'avais pas fait de concours, évidemment, puisque je voulais être architecte. Donc bon, mais au final, c'était pas si mal. J'ai fait des stages à l'étranger, j'ai appris à me débrouiller, voilà. Et en fin d'année, donc en fin de parcours, la quatrième année, il y avait une option éco-industrie. Ah, alors là, je me suis dit, ouais, il y a peut-être un truc avec mes usines propres, là. mais bon, j'étais un peu influencée par mes parents, mon père est pas mal dans les sujets environnement. Donc bref, je me retrouve en école de commerce à faire éco-industrie, et là, je me dis, je vais travailler dans les poubelles. Il y avait quand même un truc, tu vois, je voulais travailler dans les poubelles. Et puis là, je suis partie aux US pour mon premier boulot. Il y avait vraiment une composante étrangère dans ces études-là, donc je voulais travailler à l'étranger, aux US, parce que c'était la mode à l'époque, figure-toi, dans les poubelles. J'ai eu quelques entretiens dans des boîtes locales, mais bizarrement, ils n'étaient pas du tout intéressés par mon profil. Mais alors, pas du tout. Là, j'ai réalisé qu'en fait, on n'avait pas les mêmes réglementations, pas les mêmes... Enfin, ils ne voyaient pas pourquoi j'étais là. Donc, bon, voilà. Mais j'étais aux US et je ne voulais pas repartir. Donc, j'ai trouvé un boulot dans un hôtel, dans le tourisme. C'était un hôtel très luxe et on m'a embauchée parce que je parlais plusieurs langues. Donc, à l'époque, je parlais encore un peu allemand. Maintenant, je n'ose même plus le mettre sur mon CV. Et je parlais français, voilà. Et donc, j'ai bossé en hôtellerie, c'était génial, à Boston. C'est ma première vraie expérience de boulot, de rigueur, en plus d'apprendre l'anglais correctement. J'ai appris le travail d'équipe, j'ai appris le service client. C'était vraiment super, j'ai très bon souvenir de ça. Et quel lien avec les RP, parce que tu vas te dire, on passe ce podcast, ça fait une demi-heure qu'elle me parle de faire de l'hôtellerie aux États-Unis. Le rapport avec les RP, c'est qu'à un moment, il fallait bien revenir en Europe et la propriétaire de l'hôtel m'a branché avec un de ses amis qui avait une agence de RP à Boston. Il m'a dit qu'il montait une agence à Londres. Il m'a dit « t'as qu'à y aller, t'auras un job là-bas ». Mais c'est littéralement ce que j'ai fait. J'y suis allée, il m'avait dit d'aller voir une certaine personne qui venait de monter le bureau. Et puis, j'ai été embauchée. Et je ne sais pas sur quelle base. Parce qu'en plus, accent bostonien, accent londonien, je pense qu'on ne s'est pas bien compris les premiers jours. c'était un peu ubuesque. Mais bon, bref, je les ai convaincus de me prendre. Premier jour au bureau, deuxième jour au bureau, je ne comprenais toujours pas ce qu'on faisait là. Mais j'y suis restée 4 ans. J'ai passé des super, super moments. J'ai appris ce que c'était que les RP, un peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire avec une pensée holistique. Ce n'est pas que la presse, c'est tout ce qu'il y a autour. On m'a fait confiance, on a testé des trucs, c'était vraiment chouette. Et vraiment, j'ai une grande gratitude envers mon ancienne boss, mes anciens collègues, dont certains sont restés amis. C'était les années 90, c'était le début du boom Internet, c'était la tech, c'était les ordis personnels pour tout le monde, le début des smartphones. On parlait à peine de start-up, mais ça commençait. Donc, il y a vraiment un truc un peu bouillonnant. Et puis j'aimais bien Londres, c'était sympa. C'était insouciant. Entre 20 et 25 ans, franchement, je ne sais pas qui peut être encore insouciant, mais moi je l'étais à l'époque. Et puis après, je suis rentrée en France, pas longtemps. C'est là que j'ai rencontré Béa. Et puis je suis partie à Tahiti 3 ans avec un job plutôt marketing. Donc, grosse parenthèse professionnelle un peu dingue. J'ai appris à rebondir. Voilà. Puis au bout de 3 ans, je suis rentrée à Paris. J'étais très contente de rentrer à Paris. Et j'ai retrouvé un collègue de Londres qui était dans une agence à Paris. Et je me suis fait embaucher dans cette agence. Voilà. Jusqu'à devenir managing director de cette agence qui était une agence internationale. On était 3 quand je suis arrivée, 35 quand je suis partie. Voilà, j'y suis restée 10 ans. Et l'ensemble m'a plu. J'ai commencé à vraiment me poser des questions au bout de 3 ans où j'étais revenue à Paris, où je commençais à me dire que la tech. J'aimais le métier, si tu veux, le métier de relations presse, relations publiques, j'aimais ce métier. Mais le sujet de la tech commençait à sérieusement me faire poser des questions. Je me suis dit, mais en fait, c'est une espèce de course. Et je ne voyais pas l'intérêt. Sincèrement, je pense qu'il y a des gens qui sont excités justement la progression que vit la technologie, mais moi, je n'y voyais pas de progrès. Tu vois, donc ça ne m'excitait pas. À un moment donné, je me suis dit, puis on a commencé à faire un peu de greenwashing, j'ai fait un peu de greenwashing. Et là, je me suis dit, waouh, ça va pas du tout, j'aime pas ce que je fais. Donc je n'étais
D'accord.
pas satisfaite, voilà.
Et alors, est-ce que ouais, tu pourrais peut-être revenir sur cette histoire de course et de pourquoi en fait c'était les sujets tech que vous traitiez principalement? C'était la spécialisation de l'agence ou c'est juste les sujets qui arrivaient à ce moment-là parce que c'était un des points centraux du moment?
Oui, c'était l'agence hein, était spécialisée tech, elle l'est toujours, elle existe, elle est florissante, je pense, c'est une agence internationale. Et c'était les sujets tech. Donc, tu rentres là-dedans, tu fais de la tech, tu fais de la tech grand public, tu fais de la tech B2B, du hardware, du software. Voilà, les apps, on a vécu la grande ère des apps. There's an app for everything. Voilà, tu vois, on l'a vécu. Mais bon, à un moment donné, c'est pas que la techno, je comprenais pas, je comprenais très bien la techno, hein, mais je voyais pas l'intérêt pour la société, si tu veux. Et puis j'en ai eu marre de faire des claquettes. À un moment, tu te dis, et puis à un moment, faut se prendre en main. Je me suis dit, ben, si j'aime pas, faut que j'influence différemment. Et c'est là que je me suis retrouvée un petit peu seule parce que j'ai voulu faire un peu des sujets clean tech, mais je me suis dit, mais c'est encore pas tout à fait ça me plaisait pas. Et c'est là que j'ai réalisé que si ça me plaisait pas et si je voulais faire autre chose, eh ben, il fallait peut-être que je me forme. Parce que j'avais la sensation que ça sonnait pas juste et que j'avais une bribe de réponse, mais ça sortait pas. Tu sais, comme dans un rêve où tu as envie de parler, mais en fait, ça sort en n'importe quoi de ta bouche. Mais j'avais vraiment ça. Donc en fait, je faisais vraiment pas du bon boulot. T'es d'accord? C'est à un moment donné, tu tournes dans ta propre bouillasse là et tu sais que c'est pas bon, mais tu sais pas comment faire autrement. Donc bon, entre l'espèce de greenwashing, le déni, l'épuisement permanent, parce que à un moment donné, je pense que quand tu as l'impression de travailler beaucoup et trop, mais pour rien, c'est là qu'arrive ce qu'on appelle le burn-out, tu vois, c'est de te dire en fait, ça a pas de sens, je m'épuise, ça a pas de sens, je m'épuise, tu tournes en rond. Bon, donc à un moment donné, quand même, tu te donnes un coup de pied au cul. Là, pour moi, le coup de pied au cul, ça a été de faire un bilan de compétences. Je ne sais pas qui m'a dit un jour que tu pouvais faire un bilan de compétences sans informer ta boîte. C'est-à-dire, tu le fais tout
D'accord.
seul. Au bout de quelques années de boîte, tu as le droit d'avoir un bilan de compétences. Normalement, c'est tripartite, c'est l'organisme, toi-même et ta boîte, mais tu peux aussi le faire, juste toi et l'organisme de bilan de compétences. Et c'est financé, donc je conseille à tout le monde de faire ça, de bien choisir la personne qui t'accompagne aussi pour le faire, parce que c'est quand même quelqu'un avec qui tu vas passer 24 heures à parler de ce que tu veux plus. C'est pas un psy, hein, c'est quelqu'un qui t'aide à travailler sur toi. Mais ça, moi, ça m'a fait vachement de bien. À partir de là, j'ai un peu regagné en confiance. Je me suis dit que je pouvais faire autre chose. Donc, j'ai décidé d'aller me former. À l'époque, j'ai cherché les meilleures formations en M2, en formation continue. Donc, les formations pour les pros, les vieux, voilà. Et j'ai trouvé des formations. Donc, j'ai fait mon petit benchmark et j'ai choisi Dauphine. Et j'avais fait quelques économies. J'avais des enfants tout petits à l'époque, un mari qui m'a vachement encouragée, qui m'a dit mais bien sûr, si tu veux, arrête ton job, va à l'école, ça pourra que te faire du bien. Et en fait, j'ai eu un bol monumental, c'est que ma boîte a été intéressée par ce que j'avais, parce que quand j'étais les voir en leur disant en fait ça me plaît plus, j'ai envie d'aller me former, je pense qu'on fait pas du bon boulot. Ils m'ont écouté et ils ont dit, bah ouais, t'as raison, peut-être qu'on ne fait pas du bon boulot, peut-être qu'il y a un truc qui se passe et qu'on ne le voit pas. Donc cet intérêt pour les sujets environnementaux, ils peuvent être conjoints des sujets techno et on ne les voit pas. On ne voit pas comment c'est en train de changer la donne. Et si tu vas te former, bah, tu apporteras une valeur à l'agence. Donc banco, on te paye ta formation. Donc à ce moment-là,
Génial.
ouais, non mais génial. Enfin, moi j'étais directrice avec un binôme, on était deux directeurs et on s'entendait très bien à l'époque de l'agence. Et là, le siège me dit, on te le paye, fais ton truc. Donc c'est un truc de 18 mois, c'est assez intense, je me suis mise au 3/5e pour le faire. Donc tu vois, tu parlais de renoncement, un des renoncements, j'ai renoncé à mon titre et j'ai renoncé à une partie du salaire. Franchement. Le prix à payer pour t'ouvrir un autre futur, mais c'est rien, quoi. Bon, après, j'ai eu du bol, hein, j'ai eu du bol. Les études étaient payées, j'avais quand même un salaire, quand bien même j'aurais eu pas de salaire et j'aurais dû payer mes études, j'avais prévu. Donc, c'est du bol. Je ne dis pas que se lancer là-dedans sans filet, c'est pas. Enfin, tu vois. À 35 ans, de reprendre tes études, est-ce que c'est un aveu d'échec? Est-ce que c'est. Je sais pas. Pour moi, c'était salvateur. Vraiment.
En tout cas, c'est très intéressant. Il y a plein de points. Le fait qu'on puisse faire un bilan de compétences déjà sans en informer son entreprise, si on a peur effectivement du regard, de ce que peut dire son employeur, etc., je trouve ça assez fabuleux. Et puis oui, tout ce que tu dis par rapport au fait que revenir à l'école, se former sur des sujets en fait qu'on ne maîtrise pas parce que tu te rends compte en fait que tu as envie d'autre chose et que ces sujets tu ne les maîtrises pas. Mais alors moi je voudrais revenir sur justement tu te rends compte, tu as envie d'autre chose, les sujets que tu traites à l'agence t'intéressent de moins en moins, donc c'est avant que tu partes pour ta formation. Mais là en fait, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça a changé en fait? Qu'est-ce qui a fait que ces sujets t'ont moins intéressé ou que tu t'es dit en fait ça ne m'intéresse plus? C'était toi un parcours intérieur, c'est quelque chose qui était profondément ancré en toi. Tu disais que tes parents, peut-être ton père, lui, était attaché à l'environnement et c'est quelque chose qui remontait que tu avais déjà à l'intérieur de toi qui t'a dit non, non, mais attendez, je ne peux pas aller sur ces sujets-là comme ça.
Oui, bah, en fait c'est un peu tout. Et puis au début, je ne voyais absolument pas où était le problème entre faire de la tech et l'environnement. Je ne voyais vraiment même pas le rapport. Bah, tu vois, vraiment, je me disais, il n'y a aucun rapport entre mon boulot et l'environnement. Je le pensais sincèrement. Et puis, je ne sais pas, j'ai toujours été un peu lente à la détente, je pense. Tu vois, je n'étais pas très mûre dans ma tête. Je prenais des sujets intellectuellement challengeants parce que c'est quand même une gymnastique intellectuelle de plonger dans des sujets techno, bah ça m'intéressait d'avoir cette gymnastique intellectuelle, de traduire des sujets techno en enjeux business, en français correct dans un communiqué de presse, d'expliquer quelles étaient les évolutions. Enfin, il y avait un volet un peu de gymnastique intellectuelle qui m'a intéressée à un moment, je pense. Et puis à un moment, je sais pas, il y a eu une sensation de vanité des sujets. Je voyais bien les boîtes qui fonctionnaient bien. Et puis, tu avais beaucoup d'explosions de nouvelles boîtes, de rachats. Donc, je sais pas, c'est comme si tu prenais un peu de hauteur et que tu voyais des secteurs se construire, se bouffer les uns les autres, des enjeux de pouvoir sur des standards. Je me souviens avoir bossé sur les histoires de standards. Voilà, je ne voyais pas l'intérêt. Je me disais, c'est beaucoup de temps passé pour des trucs qui ne m'intéressent pas tellement. Donc, il y a sûrement autre chose à faire. Et puis, je te dis, à un moment donné, il y a eu des débuts de greenwashing sur ces sujets. Et je me suis vue y participer. Et ça ne m'a pas plu. Et je savais bien que c'était pas, ça ne sonnait pas juste. Ça ne sonnait pas juste. On était en train d'entourlouper un truc. Ça ne sonnait pas juste. Donc, quand tu retournes à l'école, déjà, il y a un truc. Bon, déjà, moi, j'ai eu un flip, c'est de ne pas être prise au master, parce que tu passes un écrit, puis tu passes un oral. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'était constituer des promos dans lesquels il y aurait une vraie dynamique, tu vois, une vraie dynamique d'apprentissage les uns des autres aussi. En plus d'avoir des super profs, on devait apprendre les uns des autres. Donc, ils voulaient des promos hétérogènes. Et on m'avait tout de suite dit, bah, s'il y a déjà deux nanas dans la com, on ne vous prendra pas. Donc, moi, je m'étais dit, oh là là, c'est dans la com qu'il y aura le plus de gens qui voudront faire ce master, parce que oh, on est en train de faire n'importe quoi. Bon, bref, et en fait, non, j'ai été prise. Il y avait plein de profils différents. Il y avait une journaliste, une personne dans les arts vivants, une personne, un maire, des gens dans les achats, des gens dans la tech aussi. Donc, c'était super. Il y avait et des gens d'horizons complètement différents. Et effectivement, on a beaucoup appris les uns des autres. Après, tu as le volet, ce qu'on te vend quand tu fais un master comme ça, c'est que tu as un volet académique exceptionnel. Enfin, franchement, moi, j'ai jamais eu des profs comme ça dans ma première partie d'études. Et ça, c'est génial, des profs de socio-éco. Je pense que plus jeune, j'aurais été un fichu de percevoir la valeur d'un truc pareil. Mais ça, c'est parce que j'étais un peu lente à la détente. Comme je te dis, je pense qu'il y a des jeunes, heureusement, qui voient très bien l'intérêt. Moi, j'avoue, j'étais contente de faire ça à 35 ans, avec déjà une vie professionnelle, avec déjà un peu de recul sur ces sujets-là. J'ai apprécié, mais comme un bonbon, quoi, tu vois. C'est un truc vachement, vachement bon, avec beaucoup de goût. Tu te dis tous les jours, waouh, c'est bon. Tu vois, j'y allais en me disant, ah, faut vraiment que je profite aujourd'hui, c'est école, c'est génial. Et puis les profs de socio-éco t'apprennent à déconstruire tes croyances. Ça, on ne m'avait jamais fait ça non plus. Ça fait un sacré effet. Et puis après, t'as des gens qui viennent te donner des cours plutôt sur le volet expérience professionnelle, quoi. Tu vois, mais j'ai eu un bol de malade dans ma promo. Là, il y avait un prof qui s'appelle Jacques Richard, enfin, qui est toujours prof à Dauphine d'ailleurs, et un prof de compta. T'imagines, un prof de compta, la compta, il n'y a pas plus chiant que la compta. Mais lui, c'est Monsieur Compta Durable. C'est le mec qui a inventé la méthode CARE, qui est la méthode qui essaye de réconcilier l'analyse financière et le développement durable, qui introduit les notions de capital humain, capital naturel dans le bilan comptable, tu vois, qui propose le pilotage des trois capitaux en eux-mêmes. Et il y a plein de boîtes aujourd'hui qui commencent à utiliser, à expérimenter la méthode CARE. Bah, d'avoir eu ce mec-là en prof, mais comme il t'ouvre l'horizon de comment l'entreprise peut faire, tu vois, pour se changer de l'intérieur, mais c'est un flash, quoi. Il y a eu plein d'intervenants pros, comme je te disais. On a eu des gens qui venaient des ONG, des gens qui venaient d'institutions, des gens qui venaient d'entreprises. Il y a le cabinet Utopie qui est venu nous donner des cours sur le conseil en développement durable. Et aujourd'hui, Utopie, c'est mon client. Bah, tu vois un peu le truc. C'est quand même un parcours de dingue, quoi.
Ça donne envie, en tout cas, d'aller faire ce master.
Ah non, mais je ne peux pas faire autre chose que de la pub pour ce master. Moi, il y a eu plein de trucs. Déjà, j'ai rencontré Fabrice Bonifay, avec qui j'ai monté un blog sur l'entreprise contributive. On a un livre à paraître bientôt chez Duno sur l'entreprise contributive. Donc, on essaye d'analyser ce qui ne va pas bien et ce qui pourrait aller bien. On essaye de voir le côté positif. Il y a déjà des graines d'entreprise contributive, tu vois. Bon, puis... On a aussi fait un voyage d'études pendant le master. On a été à Bangalore, en Inde, voir ce que c'était que le... Alors, on a pris l'avion, hein, c'est pas top. Mais on a été voir ce que d'autres pays appellent le développement durable à leur échelle. Et ça met une claque, hein, franchement. On a vachement travaillé sur l'Inde et la Chine pendant ce master, qui sont régulièrement dans l'actualité, évidemment, sur ces sujets de développement durable. Et on a essayé d'étudier le sujet sous leur perspective industrielle, leur perspective de développement. C'est vachement important de garder les points de vue des autres quand on parle de développement durable, parce qu'on a beaucoup tendance à le voir sous notre prisme. Et aujourd'hui, tu le vois bien quand tu regardes dans l'actualité. Combien de fois on va te dire « Ouais, mais non, mais la France, c'est que 1% des GES mondiales. Ouais, mais la France, regarde, c'est un pays modèle. Ouais, mais la France, regarde tout ce qu'on fait de bien, etc. » Mais en fait, on oublie qu'on est dans un système où les pays se suivent les uns les autres. Et que si tu as une forme d'input sur ces sujets au niveau politique, tu peux changer des choses. Et voilà, donc en fait, ça apprend aussi à ne pas regarder le sujet par le petit bout de ta lorgnette. Voilà. Bon, et puis ensuite, dans la formation, il y avait aussi un stage. Donc moi, j'ai voulu faire une expérience dans une grande entreprise, parce que j'avais jamais travaillé dans une grande entreprise, et plutôt dans le domaine de la tech. Donc j'ai été faire un stage de 6 mois dans une grande entreprise française, côté B2B, pour voir comment ils embrassaient le sujet du développement durable, ou plutôt comment, à l'époque, ils ne l'embrassaient pas. Et j'ai cherché un levier pour essayer d'accélérer la prise de conscience de l'importance du sujet, parce que quand tu vas faire un stage dans une entreprise, à ce moment-là, tu n'y vas pas pour le faire du café, hein, tu y vas. Et du coup, j'ai été toquée à plein de portes, j'ai parlé à plein de gens, j'ai essayé de démontrer que le développement durable était en train de... Enfin, le sujet de la RSE était en train de changer la donne pour eux. Bon, j'ai eu un peu du mal, donc j'ai essayé de le démontrer en épluchant les appels d'offres qu'ils recevaient. Donc, en fait, j'ai épluché 3 ans ou 4 ans d'appels d'offres que j'ai été chercher dans le département legal, et je leur ai démontré que les exigences de leurs clients B2B sur ces sujets de RSE étaient en augmentation, et que de les prendre en compte, ce serait un atout business pour eux, et de ne pas les prendre en compte, c'était un risque pour eux. Donc j'ai fait un boulot d'intégration un peu de ces sujets-là. J'ai été chercher des exemples externes, puis j'ai essayé de leur montrer. Et franchement, ça a fait tilt. Enfin, je pense que ça... Je ne dis pas que ça a changé les choses et la façon dont ils faisaient après, mais au moment où je leur ai présenté le truc et où on en a discuté, j'ai vu que ça faisait tilt. Donc je pense que le prisme business pour eux était la seule façon de voir l'intérêt du sujet. Et bah, tant mieux.
Et à ce moment-là, quand tu t'es relancé dans les études, j'imagine que les gens t'ont regardé aussi peut-être d'une manière un petit peu spéciale, que ce soit tes anciens collègues à l'agence ou tes amis. Comment est-ce que toi, tu t'es senti à ce moment-là, le fait de repartir à l'école à un âge, j'allais dire, un peu avancé, entre guillemets, hein, mais tu n'avais plus 20 ans et tu avais une certaine expérience professionnelle. Comme tu dis, tu divisais en partie ton salaire, alors peut-être pas par deux, mais tu le diminuais grandement. Les gens te disaient quoi?
Quand tu pars tu vois bien, quand tout le monde a le nez dans le guidon dans une boîte, les gens, ils te voient partir, ça change pas leur vie. Tu vois, ils restent dans leur truc et toi, tu fais ton truc, ce qui crée un décalage, franchement, quand tu reviens. Bon, je suis restée un peu hein, dans la boîte après, ne serait-ce que pour faire ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire intégrer le sujet au sujet de l'agence. Et on a gagné quelques clients grâce à cette capacité d'analyse que, du coup, on était capable de faire, parce que j'essayais d'apporter quand même un peu de valeur. Mais je suis restée 1 an et demi, 2 ans après. Mais ouais, dans l'agence, je pense qu'on te regarde un peu comme quelqu'un qui a choisi de tracer sa route un peu à côté. Les amis, ils m'ont tous dit que j'avais raison. La famille aussi. Tout le monde m'a fait confiance. De toute façon, tu vois bien que quand t'es mieux, même tout le monde te trouve mieux, enfin, franchement. Donc non, le regard des autres, plutôt, moi, ça m'a plutôt encouragée.
D'accord. Et après ce stage, à la fin, t'es reparti pendant 1 an, 2 ans dans ton agence. Ouais. Et c'est à la suite de cette expérience, tu t'es dit finalement, non, j'arrive pas à faire bouger les choses à l'intérieur, ou finalement, je me sens trop seul dans ce combat, entre guillemets, à l'intérieur de l'agence, ou alors ces sujets ne m'intéressent pas du tout et j'ai envie de me dédier entièrement à la RSE, au développement durable.
C'est plutôt ça, oui.
D'accord.
Oui, parce que je voyais bien, c'est quand même une grosse agence, hein, et tu ne peux pas tout seul complètement influencer le truc. Alors, puis même, un jour, on m'avait fait la proposition, on m'avait dit « Ah, mais on pourrait faire labelliser l'agence parce que tu as fait une formation. » Et j'ai dit « Mais non, mais vous êtes fous, les gars. Tu ne fais pas labelliser une agence parce qu'une personne a fait une formation. Il faut que tout le monde soit embarqué. » Et là, ça m'a fait quand même… Il y a eu plusieurs petites questions comme ça où je me suis dit « En fait, je ne vais pas pouvoir changer de l'intérieur un système qui marche. » Parce que cette agence, elle marche, elle fonctionne financièrement. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas changer complètement un truc. C'est une agence qui appartient à un grand groupe coté, etc. Tu fais pas changer le mammouth comme ça. Hein. Donc, on aurait pu faire une offre, et c'est ce qu'on faisait un petit peu, une offre un peu green. Mais ça ne m'intéressait pas. Ce n'était pas ça que je voulais faire. C'était de l'intérieur, communiquer différemment pour les clients, proposer globalement une autre forme de conseil et ne m'intéresser qu'au sujet qui avait un impact. Donc ça, à un moment donné, tu te dis, ok, j'ai été au bout du truc, merci pour ce moment, comme dirait quelqu'un, c'était super, j'ai fait ma mue, je vais aller tracer ma route, et c'est bien, attends, 10 ans dans une agence, ça va, hein. Après, tu fais partie des murs, quoi, ça va pas.
Alors, je me permets de t'interrompre parce que c'est un sujet que je trouve très, très intéressant, parce que toi qui avais quand même une position, tu étais directrice générale de cette agence avant de partir refaire tes études, et pourtant même ce poste clé-là ne te permettait pas en fait de faire switcher entre guillemets le modèle ou la direction de l'agence.
Non, pas du tout.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu en fait ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Qu'est-ce qui a fait que tu aurais pu faire changer ce modèle-là ?
Non, mais attends, c'est une question de gouvernance. Tu es dans une agence d'un groupe et tu es co-directeur général de France. Ça veut dire, dans cette agence en tout cas, que tu es dans un système où on essaye de proposer un service global, une offre globale, où un client américain, anglais, allemand, espagnol la même chose dans tous les... Tu vois, ils visaient... Enfin, le
D'accord.
modèle d'affaires, c'est quand même d'avoir des grosses boîtes qui prennent le réseau. Donc, non, tu changes rien. Vraiment. Et puis, je me rappelle de conversations ubuesques sur la marge, où tu essayes 1 an, 2 ans, 3 ans de dire que les sociétés sont beaucoup plus imposées en France, donc on ne devrait pas être soumis aux mêmes marges. En fait, c'est même pas une discussion, tu vois, donc non, tu peux, enfin, il y a des limites, et c'est des limites de gouvernance. Alors après, je dis pas, j'ai pas non plus peut-être une force de conviction de malade. Est-ce que j'aurais pu aller plus loin dans l'influence? Peut-être que j'aurais pu, mais à un moment donné, t'essayes d'être pragmatique aussi, tu te dis, bon, là, j'ai peut-être assez duré dans cette boîte 10 ans. C'est comme dans un couple, si tu as assez duré, peut-être à un moment tu le sens aussi, tu vois, qu'on ne va plus s'apporter grand-chose les uns les autres, et qu'il vaut mieux se quitter. Mais bon, on s'est bien quitté, hein, parce que quand on s'est quitté, déjà c'était en rupture conventionnelle, donc c'était chouette, ça correspondait au moment où mon binôme avait demandé, lui, sa mutation aux US, et il l'a eu, donc ça a fait une sorte de renouvellement de la direction, et c'était très bien. Et j'ai même gardé un contrat en freelance. J'ai continué à faire un peu, en quelques mois, du conseil pour ma boîte, enfin mon ancienne boîte, en freelance. Donc finalement, attends, mais c'est royal. Franchement, je ne peux pas me plaindre. Ensuite, j'ai fait quelques missions, très, très, très conseil, plus du tout RP, en RSE, pour vraiment me plonger dans le sujet du dur. J'ai eu des belles missions. Et puis c'est là que Béa m'a dit qu'elle aussi était partie, qu'elle avait monté sa structure, qu'elle avait un sujet énergie un petit peu pointu et qu'elle me demanderait bien ce que j'en pensais, et paf, on s'est associés, et c'était génial, génial, parce qu'on avait la même envie de faire le boulot, vraiment avec les tripes, tu vois, pas du tout en agence qui cherche à grossir pour grossir et qui finit par faire que de la gestion financière court-termiste. Et non, du conseil, Tu vois, et c'est pour ça qu'on ne grandit pas comme des malades, on pourrait, mais non. Parce que si tu veux continuer à faire du conseil de qualité, bah, tu dois continuer à être proche de tes clients. Pour ça, tu ne peux pas en avoir 50. Donc, tu choisis. Tu vois, donc je reviens à... Et finalement, cette approche-là, elle est hyper qualitative. Moi, je pense qu'on fait du meilleur boulot. On est vachement meilleur.
Et justement, le fait de... Donc, tu as quand même eu ta rupture conventionnelle, tu as fait un peu de freelance après. Bah, donc, j'imagine aussi que ton mode de vie a un petit peu changé à cette période-là.
Oui, bon, alors, ça a un peu changé. Je me suis mis la pression différemment. Au niveau argent, franchement, j'ai pas perdu. Hein. J'ai vite rebondi sur des projets qui ont été... aussi rémunérateur. Et aujourd'hui, je pense que les gens cherchent de la qualité. Donc, il n'y a pas de risque. Je ne veux pas dire, oh là là, j'ai pris un risque, j'ai pris zéro risque. Qu'est-ce que j'ai changé? Je me suis dit qu'il fallait être un peu cohérent. Et c'est, comme je te disais, c'est super dur. Par exemple, je suis comme tout le monde, hein, les voyages en avion, enfin, du temps où c'était permis de prendre l'avion, c'était facile de partir un week-end, je l'ai fait. C'était super agréable. Voilà. Puis à un moment donné, tu te dis, ah, pff, alors, du coup, les voyages en avion, c'est, tu te dis, ah, pas trop, plus tout à fait la même saveur, etc. Alors j'ai essayé de me dire, ah, bah, pour compenser, je suis encore dans ma période, rien de neuf. Donc, après, c'est critiquable, hein, ça peut vouloir dire que je n'achète pas aussi, par exemple, des fringues ou des trucs pour la maison qui viendraient d'entreprises plus vertueuses, mais bon, je les pousse, les entreprises plus vertueuses, je les aime, je les pousse, je les voilà, mais personnellement j'essaye de rien acheter de neuf. Ça fait plus de 10 ans, c'est assez rigolo, tu te prends au jeu en fait, et maintenant j'aime vachement ça. En plus, je suis persuadée que ça m'économise un tas de temps. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai un peu changé. J'ai aussi changé, je suis beaucoup plus chiante avec mes enfants. Je pense, j'essaye de pas être angoissante, mais je pense que je suis un peu. Enfin, elles savent ce que c'est que. Enfin, elles savent que c'est important l'environnement parce qu'elles peuvent pas faire autrement, les pauvres, avec une mère comme moi. Voilà.
Et justement, si on se projette un peu dans l'avenir, comment est-ce que tu perçois le futur?
Alors, pour moi. Globalement, donc pour moi, sincèrement, ça va. J'ai une super équipe, je ne me perçois pas du tout faire autre chose pour l'instant. Donc je suis très optimiste pour Looksharp parce qu'on s'entend bien, on a vraiment une bonne dynamique, on fait des choses qui nous plaisent. Voilà. Après, plus globalement, ça va moins bien. Je suis pessimiste un jour sur deux. Ou quand la nuit tombe, enfin je sais pas. Tu vois, parfois je me dis quand même c'est con d'être la seule espèce animale à faire pipi sur son territoire au point de l'empoisonner et de le rendre relativement peu propice à notre propre vie. Et en plus de s'en rendre compte, c'est quand même assez tordu comme truc. Tu vois, tu sais que tu pourris le truc, tu le fais quand même, tu t'en rends compte. Bon, là ça c'est mes mauvais jours. Là ces jours-là, je me dis voilà, on est fichu. Et puis le lendemain, je me remotive parce que c'est obligé, parce que quand tu as un boulot, quand tu as de la chance, quand tu es mère, quand tu as des enfants, quand tu es citoyenne, ben tu essayes de faire les choses à ton niveau, le mode colibri, si tu veux. Et puis je ne sais pas faire autre chose, tu vois. Donc, j'essaye avec mes petits moyens.
Et si tu pouvais revenir dans le temps, maintenant, et soit te laisser un message à l'époque où bah, tu es sortie de cette école de commerce avant de partir aux États-Unis à Boston, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire, si tu pouvais te conseiller?
Je sais pas, parce que sincèrement, les conneries que j'ai faites, enfin, faut les faire à un moment, tu vois, pour te relever, pour regarder, prendre un peu de, je sais pas ce que je... Et puis si je m'étais dit quelque chose, est-ce que je me serais cru? C'est pas sûr. Réfléchis, tu vois apparaître ton futur, déjà la tronche qu'elle a, si elle te dit un truc, tu te dis non mais laisse-moi faire, je sais pas si, déjà qu'est-ce que j'en sais, tu vois, je suis encore en pleine recherche de sagesse, donc quelle leçon j'ai à donner, non, sans blague, c'est, si j'ai bien juste peut-être une leçon à donner, c'est pas une leçon d'ailleurs, c'est un c'est un conseil, c'est écoute-toi un peu, te satisfais pas d'un truc que tu trouves pas satisfaisant, donne-toi les moyens. Maintenant, je sais qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas le choix, ils ont un job, s'ils n'avaient pas ce job, ben, ils n'auraient rien. Donc, tu vois, c'est facile aussi de donner des conseils, mais non, en fait. Qui es-tu pour donner un conseil ? Enfin, moi, je ne sais pas.
Alors, peut-être pas un conseil, mais peut-être plus un message aujourd'hui, plus à tes pairs, aux gens qui travaillent dans la communication, en agence. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire ?
Ouais, alors là, ça, c'est quand même vachement important. Dernièrement, j'ai signé une tribune qui était initiée par l'agence YZ pour une communication responsable. Cette tribune, ils l'avaient lancée en réaction à une autre tribune de communicants, un petit peu à l'ancienne, une tribune qui s'appelait « Avant d'interdire », qui est une forme de soft lobbying contre toute tentative de régulation de la pub pour être plus en phase avec les enjeux environnementaux. On a vu quelques grands pubards qui disaient que non, la pub, c'est vachement bien, ça éclaire la... Il y en a un qui a même dit, je ne le citerai pas, hein, même si tu me forces, que la publicité égaye nos vies, et d'autres qui ont dit que la publicité allait s'autoréguler, bien sûr, c'est bien connu, on est tous très très forts pour l'autorégulation. Donc en fait, ça m'a vachement, cette tribune-là m'a vachement gênée. Quand on m'a demandé de signer une tribune pour une autre communication, j'ai tout de suite signé. Aujourd'hui, il y a une dynamique pour proposer autre chose, en tout cas pour que les agences et les communicants, que tu sois free ou dans tous les métiers de la com, que tu prennes conscience de ton... Sans flagornerie, tu as un impact, qu'il soit petit, grand. Enfin, tu fais, évidemment, tu fais une pub pour vendre des SUV, tu as plus d'impact que si tu fais un petit flyer pour une épicerie solidaire. Mais tu as un impact, donc mets cet impact au service d'un truc auquel tu crois. Et c'est un peu la direction aussi qu'a prise les étudiants pour un réveil écologique. Donc, je soutiens vachement leur mouvement qui a 2 ans maintenant. Je me suis inscrite auprès d'Alumni for the Planet qui vient d'être lancée. C'est une asso qui met en réseau les anciens étudiants qui veulent mettre leurs compétences au service de la planète via leur job. Bah, tu vois, ça me parle vachement. Et je pense qu'on est nombreux, en fait. En fait, on est nombreux. On cherche juste des moyens. Et c'était ma situation il y a un peu plus de 10 ans maintenant. C'était... Tu sens un truc, tu cherches un support sur lequel t'appuyer. Ben maintenant, ce support, il commence à se dessiner. Tu vois, il y a un maillage qui commence à se faire. Donc, pour les gens qui ont envie de faire autrement, ben, il faut chercher des gens qui sont déjà sur cette voie-là. Et je vais te dire un truc, il existe une solidarité incroyable chez ces gens-là. Moi, autant dans le monde d'avant, je trouve que les gens étaient en compétition, autant dans ce monde-là, les gens se parlent vachement, et échange et propose et te donne de la force et t'aide à faire grandir un cercle d'influence politique. Moi, j'en vis hein, du cercle d'influence positive, c'est ce qu'on vend à nos clients. Donc, je vais te dire, plus il grandit, et plus ça me rend riche, mais riche de gens. Donc, en fait, mon conseil, si tu commences à te poser des questions, c'est lève le nez, regarde, pose 2-3 questions, tu vas forcément trouver des gens qui vont te tendre la main, vraiment.
Céline, merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, écoute, merci beaucoup aussi de m'avoir accueilli en tant que participant à la tribune sur entreprise contributive. Bravo pour ton travail avec LookSharp. Et puis, je te dis à très bientôt.
Oui, à bientôt. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ton accueil. Merci.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez !